Alep, de l'éducation populaire à Blois.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du mois de novembre de l'Alep pour présenter la programmation de ce mois-ci. Donc il y aura plusieurs choses ce mois-ci. Il y aura une exposition qui s'appelle « Volcans et glaciers d'Islande » du 6 novembre au 1er décembre. On va vous en parler juste après avec notre invité Gérard qui va aussi parler d'un film-conférence qui passera mardi 28 novembre qui s'appelle « Et si l'Islande m'était comptée ?». Il y aura également une autre exposition, mais là, elle est délocalisée, ça s'appelle « Tu veux ma photo ?». C'est une exposition qu'on a menée avec le Carillon de Blois, qui est une exposition de portraits photographiques et radiophoniques des personnes qui fréquentent le Carillon de Blois, donc des personnes qui connaissent ou qui ont connu la vie à la rue. Donc elle est délocalisée du 9 novembre au 1er décembre à l'hôte bureau qui est aux 2 rue Pierre de Blois en centre-ville. Ensuite, on aura aussi le vendredi 10 novembre, les vendredis de l'espace Quinière. On a avec nous Alexandre pour en parler. Et le samedi 18 novembre, on a un spectacle d'improvisation théâtrale qui opposera les impros locaux de Blois et la Lila de Langeais. Donc on va commencer par parler des vendredis de l'espace Quinière avec Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Donc Alexandre, tu es nouveau à l'espace Quinière Rosa Parks. Alors est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire ce que tu fais ?
Oui, tout à fait. Je suis arrivé sur l'espace Quinière Rosa Parks le 18 septembre, donc je suis vraiment tout nouveau. J'ai pris la place de responsable de l'espace jeune, donc de l'espace. C'est un service municipal de la ville de Blois et sur lequel nous accueillons des jeunes âgés de 11 à 17 ans en période scolaire et également pendant les vacances. Donc pendant la période scolaire, les jeunes peuvent venir comme ils le souhaitent, en fait, c'est un accueil ouvert et on peut les accompagner sur différents projets, faire des jeux avec eux, que ce soit aussi bien jeux de société ou des fléchettes, ou voilà un petit peu ce qu'ils ont envie de faire au moment venu. Et pendant les vacances, on est plutôt sur une programmation sur lesquelles les jeunes vont pouvoir venir s'inscrire, que ce soit des activités de loisirs, culturelles ou toujours dans l'accompagnement de projets. On a par exemple un projet là qui est en train de se monter, chasseurs-cueilleurs, où l'objectif est de modifier les paniers repas, on va dire, des jeunes pour qu'ils apprennent à s'alimenter correctement avec des produits locaux et plus forcément tout ce qui va pouvoir être industriel.
Super.
Voilà un petit peu pour ma présentation rapide. Ensuite, en ce qui concerne les vendredis de l'espace Quinière Rosa Parks, donc ils vont avoir lieu, comme ça a été dit, le 10 novembre, donc vendredi 10 novembre, à partir de 18h30 sur l'espace Quinière. Et nous allons avoir plusieurs participants. Donc l'objectif de cet événement est de promouvoir toutes les pratiques artistiques et culturelles. On va avoir sur ce temps différentes chanteuses qui vont pouvoir venir et faire quelques chansons de rock, R&B, variété française. On a aussi de la musique avec une jeune fille qui nous jouera quelques morceaux au piano, un groupe de guitaristes qui fera notre petite musique d'ambiance au moment de l'apéro sur lequel vous pourrez retrouver un petit peu de soupe chaude ainsi que des tartinades. On aura aussi une interview qui a été réalisée dans le cadre des rendez-vous de l'histoire justement par des jeunes de l'espace jeunesse où ils ont interviewé en calèche Jérôme Prieur qui était le président du cycle cinéma sur les rendez-vous de l'histoire 2023 au niveau de la thématique les vivants et les morts.
Donc ça a été filmé, c'est ça, et ça va être diffusé lors des vendredis de l'espace Quinière.
Tout à fait. Ouais. Au moment de l'espace Quinière, ça sera diffusé sur le rendu de cette interview que les jeunes ont réalisé auprès de cette personnalité.
Ça marche.
Voilà. Et à côté de ça, on aura également de la danse qui sera proposée par l'association Artistreet et également une gym danse d'Afrique pour un petit peu réveiller un petit peu tout le monde et mettre un petit peu l'ambiance. Voilà un petit peu sur toute la programmation qu'on va pouvoir retrouver sur cette journée. Et en parallèle de tout ça, dans l'espace Kinia Rosa Parks, donc on aura une exposition sur l'Islande, justement, que Gérard va vous présenter par la suite.
Super, belle transition. Donc on se retrouve le 10
vendredi
novembre,
10,
c'est ça, à partir
de 18h30,
de 18h30
à l'espace Kinia Rosa Parks.
L'espace Kinia Rosa Parks, super. Et donc voilà, il faut savoir que cette programmation, elle est faite par les professionnels qui travaillent à l'espace Kinia Rosa Parks.
C'est ça,
donc
en partenariat.
Service jeunesse, centre social et Alep.
Tout à fait.
Voilà. Merci pour cette présentation.
De rien, merci de l'invitation.
Et donc on va écouter une musique islandaise dont on vous dira le nom avec un bel accent à la fin de cette musique. On écoute. C'était donc, alors à mon avis, je vais mal le prononcer.
Je vais peut-être pas le prononcer mieux, mais c'était un morceau qui s'appelle Sprejisandur. Ça veut dire, en fait, c'est le nom d'une piste en Islande, parce qu'il y a bien sûr des routes Gaudrelin en Islande, mais pas partout. Et c'est une piste qui va vers le centre, qui correspond à une région d'Islande. Mais les chants, là, c'était des chants de pêcheurs.
D'accord. Et donc, c'est un groupe qui s'appelle Rio Trio, c'est ça?
Oui, oui.
Voilà. Donc on va parler de l'Islande parce que Gérard, tu as fait un documentaire, un film conférence, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
On peut appeler ça, oui, un film de conférence, un documentaire, oui.
Voilà, qui s'appelle
Et si l'Islande m'était comptée. Alors c'est pas le premier premier film que l'on fait sur l'Islande, mais avant on travaillait en multivision, c'est-à-dire avec des diapos. On avait déjà fait deux autres réalisations. Et là, c'est un film complet, tellement complet, qui dure deux fois une heure. Donc on peut appeler ça un long métrage. Ouais. Et c'est une présentation, je dirais, quasi complète de l'Islande.
Très bien. Et donc, il a été tourné quand, ce film ?
Il a été tourné en 2021. C'est donc récent, parce que monter un film, c'est long. Ouais. D'ailleurs, c'est pas moi qui les monte, c'est mon épouse. Donc, avec toutes les prises de vue, elle a fait le montage de ce film. Donc, ça demande bien sûr un certain temps.
Donc c'est Geneviève, c'est ça.
C'est Geneviève, qui,
voilà,
c'est ça.
Pour lui, ouais. pour lui rendre
hommage.
Hommage, on va dire ça. donc c'est pas la première fois que... Alors tu pars tout seul ou vous partez à deux?
Eh ben, généralement on part à deux.
Voilà.
Dans le premier voyage en 78, c'était même plus qu'à deux parce qu'il y avait des copains avec nous. Ensuite, on est retourné en 90, on était avec un autre équipage de la région de Romorantin, des fins connaisseurs de l'Islande, qui seront d'ailleurs présents à la conférence. Et puis, on est retourné en 91, l'année d'après, mais aux vacances de Pâques, pour voir l'Islande sous la neige, c'est-à-dire à la fin de l'hiver. Et puis moi, ça me démangeait depuis 2014. Je disais toujours, il faut que j'y retourne. Et puis, bah, il y a le Covid qui est passé par là. Bon, et donc, et les événements ont fait que j'y suis allé tout seul. Geneviève devait me retrouver, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà, j'ai ce voyage-là, je l'ai fait tout. Quand je dis tout seul, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que pendant une semaine, j'ai deux neveux qui sont venus me retrouver. Et puis pendant une autre semaine, j'ai une fille de Lyon qui est allée sur tous les volcans du monde. C'était vraiment une dingo de volcans. Et pendant une semaine, on a voyagé ensemble aussi en Islande.
Ok. Et donc là, en tout, toi, tu es parti combien de temps en 2021 ?
En 2021, deux mois et demi.
Deux mois et demi.
Ouais.
Et donc, ça a fait traverser plusieurs saisons ou...
Je dirais, oui, l'été, la fin de l'été et le début de l'automne.
D'accord.
Oui.
Et donc, c'est quoi pour toi la plus belle saison en Islande ?
Moi, je dirais que toutes les saisons sont belles. Bon, il faut savoir que le climat est quand même rude, puisque à l'automne, j'ai quand même eu une tempête de neige très, très forte. Ouais. Mais ça m'intéressait quand même parce que ça permettait de faire des bonnes prises de vue. Et puis, bon, le climat est très changeant. Là, cette tempête de neige, elle a duré deux jours. Et le matin, c'était très violent. Et après l'après-midi, je suis descendu sur la côte au milieu de la tempête. Et si j'avais su, j'aurais attendu parce que après le soleil est revenu, la neige est fondée. Mmh. L'Islande, c'est comme ça.
Et donc, quand tu dis le soleil est revenu, c'est que est-ce qu'en Islande aussi, il y a des saisons où il part jamais vraiment et des saisons où il arrive jamais
oui,
vraiment?
Oui, parce qu'effectivement, ben, c'est un peu comme dans les pays nordiques, comme la Norvège, etc. En été, on a quasiment un jour permanent. Ce qui permet pour celui qui voyage, et puis s'il en a envie, de faire des très grandes journées. Bon, il faut quand même faire attention parce que ça peut nous déboussoler un peu. Mais là, déjà, rien qu'en septembre, à fin septembre, je sentais fortement que les jours raccourcissaient et ils raccourcissaient très rapidement. Alors effectivement, pour les Islandais, le mois de janvier, où il fait pratiquement presque pas jour, c'est des périodes assez difficiles. Quoi.
Et pourtant, il me semble que c'est un des pays où les gens sont le plus heureux, non? Je crois que j'ai lu ça.
Bah d'abord, c'est un pays où les gens sont, j'allais dire, modernes, très développés. Oui, ils sont très heureux, mais il faut dire aussi qu'ils quand même, ils travaillent beaucoup. Ils ne se laissent pas aller, vu qu'ils ont une nature difficile. Je ne dirais pas qu'il faut la combattre, parce qu'on ne combat pas la nature, mais il faut même pas la dompter, mais il faut la faire avec, je dirais. Effectivement, ils ont un bon niveau de vie, mais ils le méritent. Bon, il faut savoir qu'il y a 70 ans, l'Islande, c'était encore le Moyen Âge. Ça s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale et à une vitesse assez fabuleuse.
Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que, bah, je ne sais pas si tu sais ça, mais est-ce qu'il y avait de la vie humaine en Islande avant l'arrivée des Vikings, avant cette découverte-là, on va dire?
Oui, effectivement, il y avait de la vie, mais effectivement, l'Islande était beaucoup moins peuplée que maintenant, bien que maintenant ce ne soit pas un pays très peuplé, puisqu'il y a 350 000 habitants, il y en a les deux tiers à Reykjavik et sa banlieue, c'est pour un pays qui fait 103 000 km², c'est-à-dire que le cinquième de la France. Donc si on rapporte ça à la France, on serait 1 500 000 en France.
Ouais. Hein? En effet. Oui.
Ça serait le paradis.
Oui, donc il y avait déjà peut-être de la vie humaine avant,
ouais.
Parce que voilà, on dit que c'est les Vikings qui ont découvert l'Islande, mais peut-être il y avait déjà du monde qui vivait
ici. Il y avait
un
petit peu, mais pas énormément. C'est effectivement les Vikings qui ont découvert l'Islande, et on dit aussi, je vais faire un petit aparté, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, c'est pas vrai. Ouais. C'est les Islandais, les Vikings, qui avant Christophe Colomb sont allés jusqu'à Terre-Neuve et qui ont découvert l'Amérique.
D'accord. Mais voilà, en Amérique, il y avait déjà des habitants, enfin voilà, il y avait ceux qu'on appelle les Indiens d'Amérique, mais voilà, les autochtones,
ouais.
quoi.
Ouais, ouais.
C'était déjà une terre qui était vraiment habitée, alors que l'Islande, je ne sais pas...
Si, c'était habité, mais quand même très peu, quoi. Très peu.
Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a... comment dire ? On trouve... est-ce qu'on on trouve des influences vikings, j'allais dire. Est-ce que ça se ressent encore que ce pays est
ouais, un
pays
petit, un petit peu, mais pas énormément.
Non,
pas, non, ils sont vraiment les Islandais sont plongés dans le modernisme. En fait, ils sont des fois ils sont un peu partagés parce que de par leur position géographique, ils sont à la fois américains, ils ont un mode de vie un peu américain, mais aussi européen, puisque l'Islande est dans l'Europe. Elle ne fait pas partie de l'Europe en tant que telle, mais c'est quand même, ils ont un mode de vie aussi européen. Il y a des accords aussi avec l'Europe par rapport à la pêche et tout ça. Donc, ils sont un peu à la croisée des chemins, quoi.
Mm.
Mais d'une manière tout à fait moderne.
Ok. Et donc, quand tu voyages et que tu passes du temps sur place, est-ce que, comme au Kirghizistan, c'est ça ? Est-ce que tu es avec les locaux tout au long de ton voyage ?
Oui, alors là, c'est un peu différent. Parce que si j'allais en Islande, et d'ailleurs, beaucoup de gens qui vont en Islande, je dirais que ce n'est pas pour les Islandais, parce qu'ils sont comme nous.
Ouais.
Ils sont comme nous, je dirais même, entre guillemets, sur le plan du développement, ils sont supérieurs à nous. Donc, ce n'est pas forcément intéressant, entre guillemets encore, de rencontrer les gens. Mais c'est ce que j'ai fait un peu. D'ailleurs, j'ai retrouvé une amie que j'avais connue 30 ans auparavant. Donc, c'était quand même assez intéressant. Mais je vais être honnête, le reportage n'est pas axé forcément sur les gens. Il est axé sur la nature. On va en parler ouais. tout à l'heure, les volcans, les glaciers et tout ça. Et je ne dirais pas que c'est le point faible du reportage, mais ce n'était pas le, entre guillemets, le plus intéressant.
Mm.
Donc, et puis en plus, moi, j'ai toujours été dans la nature et souvent tout seul. Donc, et puis des fois, j'aurais bien voulu voir des gens, des fois, rencontrer des gens. Des fois, j'étais dans des situations difficiles. J'aurais bien aimé que des gens passent là, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne.
Ouais, on peut passer plusieurs kilomètres sans voir personne.
Ah ben, plus que plusieurs kilomètres, mais il n'y a pas de problème.
Donc, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce pays au niveau nature, j'imagine ? Tu voulais parler des volcans ?
Oui, bah effectivement, les deux thèmes principaux, d'ailleurs, c'est le titre de l'exposition « Volcans et glaciers d'Islande », qui est l'exposition de... Ce n'est pas du dernier voyage, c'est d'un précédent voyage, mais c'est toujours d'actualité. Donc, les volcans, c'est quand même un phénomène étonnant en Islande, puisque de ce point de vue-là, je peux dire que c'est l'unique pays au monde. Bon, chaque pays est unique de toute façon, mais c'est quand même l'unique pays au monde qui est situé sur ce qu'on appelle un point chaud. Un point chaud, c'est en fait le magma qui, à un endroit donné, perce la croûte terrestre et sort. Et en Islande, c'est le cas. Et d'ailleurs, l'Islande, il y a une ride du côté d'une région, d'une ville, d'une petite ville, un village, qui s'appelle Þingvellir. Et l'Islande est pratiquement coupée en deux. Et l'Islande s'agrandit, c'est-à-dire que les Islandais mesurent la faille, et chaque année, la faille s'agrandit.
D'accord.
Et d'ailleurs, à cet endroit-là, il y a une fissure, et c'est plus qu'une fissure. Dans cette fissure, il y a de l'eau, et on voit vraiment que l'Islande se sépare.
Ok. Ouais. Et donc, ils estiment à combien d'années, ou ça ne doit pas se compter en bien plus d'années, mais est-ce que ça se pourrait que ça forme deux pays, en tout cas deux terres différentes à un moment donné ou pas à ce point ?
Personnellement, je pense que oui, mais bon, je ne suis pas non plus un spécialiste en volcanologie ou en géologie, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait, de toute façon, au niveau des éruptions, du volcan, on dit qu'en moyenne, en Islande, il y a une éruption tous les 5 ans. C'est une moyenne. Mmh. Mais ça se vérifie. C'est,
okay.
c'est vrai. Et moi, quand j'y suis allé là, j'ai eu la chance que l'éruption du dernier volcan dans la partie sud-ouest de l'Islande était toujours en activité. D'ailleurs, dans le reportage, on verra cette éruption.
Ah ouais,
ce qui est quand même assez fabuleux. Et là, nous, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'y monter 3 fois. Donc, une première fois avec justement la copine de Lyon, et puis une deuxième fois avec les neveux. et de jour et de nuit, parce qu'un volcan, c'est fatigant d'aller sur les volcans, hein, parce que, bon, il faut les voir de jour, c'est bien, mais il faut aussi les voir de nuit. Donc ça veut dire qu'on ne dort pas beaucoup. Mais le spectacle est tellement fabuleux que si un jour vous avez tombé sur une éruption, et puis si, même si c'est la nuit, il faut y aller.
Quand et on a le droit d'y aller sans guide?
Oui, ça c'est une bonne question, mais toutes les questions sont bonnes. Mais les Islandais sont plus intelligents que les Français, les Italiens, etc. Parce que si par exemple il y a une éruption à La Réunion, on ferme tout, sous prétexte de sécurité. En Italie, c'est pareil. Tandis qu'en Islande, là, ils ont aménagé un chemin au bulldozer. Ils ont permis aux gens de y aller. D'ailleurs, on verra sur le film, il y a beaucoup de monde qui regarde l'éruption. Évidemment, les gens ne sont pas au pied de l'éruption, mais ils font en sorte que les gens qui regardent l'éruption soient en sécurité. C'était le cas. Et ça, en Islande, de ce point de vue-là, ils sont intelligents.
Ok. Et donc, il y a la partie volcan et il y a la partie glacier.
Oui, alors la partie glacier, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse bien. C'est fabuleux parce que c'est tellement beau de voir un glacier, de voir les reflets dans la glace, les aspects bleutés, ça se reflète dans l'eau, etc. Et le sud de l'Islande, il y a plusieurs glaciers en Islande. Il y en a un qui s'appelle le Vatnajökull sur le sud, qui est aussi grand que la Corse. Donc, on imagine la Corse, on la pose sur l'Islande. Ouais. Il est un petit peu moins grand maintenant parce que, ben, comme ailleurs, il souffre du réchauffement climatique. Mais néanmoins, il y a encore de très belles choses. Et ce glacier, comme on dit, il a plein de langues glaciaires. Et les langues glaciaires du sud, je les ai pratiquement toutes faites. Donc, parce que elles sont d'une part différentes, et puis bon, j'aime la glace au propre comme au figuré. Donc, mais c'est vraiment extraordinaire. Et puis en plus, on est même monté dessus, toujours avec la fille de Lyon, je l'avais emmenée là sur les volcans parce que j'avais des piolets, des crampons. Et en plus, c'est des glaciers d'accès facile. Il n'y a pas de besoin d'être un grand alpiniste pour monter dessus. Bon, d'ailleurs, il faut marcher un peu. De toute façon, que ce soit les volcans ou les glaciers, ça se mérite. Mais néanmoins, c'est facile d'accès.
C'est un pays de randonnée, alors?
Ah, tout à fait. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, les Islandais randonnent beaucoup. Ils ont tous des gros 4x4 avec, surélevés avec des pneus énormes. Et dès qu'ils ont un week-end, par exemple, la copine chez qui j'étais, je suis arrivé chez elle avant un week-end. Bah, le week-end, elle partait dans la nature pour randonner, quoi. Non, ils sont très proches de la nature. Et puis, j'ai pas vu comme en Sicile, où j'ai pas vu des papiers traîner, j'ai pas vu des gravats. Ouais. Ils font vraiment très, très attention.
D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes sur l'Islande à nous partager ou... ou des choses à savoir. Enfin, je sais que là, je regardais tout à l'heure sur Internet. A priori, il y a des endroits, il y a des toutes petites maisons qui sont à destination des elfes. Il y a une croyance encore. Alors, je ne sais pas si on en voit partout, mais voilà, c'était peut-être.
Je pense que Internet, là, ils ont un peu exagéré.
Ouais.
Mais par contre, ils ont quand même des fortes croyances vis-à-vis des elfes. Et il est arrivé dans une région. Du sud de l'Islande, qu'il y avait le tracé d'une route qui justement allait passer juste à l'endroit où on disait que les elfes étaient là, dans une maison ou pas. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné, ils ont changé le tracé de la route pour ne pas déranger les elfes. Il y a encore des croyances comme ça c'est sûr.
Ouais,
mais pas non plus de manière outrancière.
Hein. Ouais.
Mais effectivement, ça existe. Ouais.
D'accord.
Bon, les fameuses petites maisons dont tu parles, moi, je ne les ai pas vues.
Ouais.
Et pourtant, j'ai quand même beaucoup sillonné l'Islande. Je lui ai donné des chiffres, mais c'est très relatif. Mais dans mes 2 mois passés en Islande, j'ai voyagé à la forêt avec mon véhicule, qui n'est pas un véhicule 4x4. Donc, j'ai fait le tour de l'Islande sans problème. Par contre, quand on va aller sur le centre, il faut un véhicule 4x4. Et là, aussi bien avec les deux neveux que moi, pendant 3-4 jours tout seul, j'ai loué une Dacia 4x4. J'ai été étonné, il y en a beaucoup en Islande. Donc, je ne vais pas faire de la pub pour Dacia, mais néanmoins, j'ai constaté que c'est une bonne bagnole, puisqu'ils vont dans le sud de l'Islande avec. Et voilà, quoi.
Et donc, des personnes qui voudraient aller y voyager, est-ce que ça vaut le coup, enfin, est-ce que ça suffit, entre guillemets, de longer toute la côte ou ça vaut le coup quand même d'aller au centre?
Oui, ben, ça vaut bien sûr le coup d'aller au centre, mais tout dépend sur, sur quelle durée on va partir. Si les gens partent une semaine ou 15 jours, je ne crois pas qu'il faut qu'ils se contentent de faire le tour. Et encore, faire le tour en 15 jours, faut déjà faire, c'est déjà beaucoup. Après, puis sur le centre, il faut savoir aussi qu'on peut y aller qu'en gros, juillet-août. Parce que après toutes les autres périodes, c'est soit boueux, il y a soit de la neige, et puis de toute façon, les pistes sont fermées. Donc, sur les mauvaises saisons, on ne peut pas y aller. Et la mauvaise saison en Islande dure quand même un peu.
Ouais, 10 mois, ça fait beaucoup. Ouais. Et y a des habitants dans le centre ou il n'y en a pas du tout?
Dans le centre.
Ouais, c'est vraiment que la nature.
Non, il y a des refuges pour les randonnées, des choses comme ça. Mais dans le centre, il n'y a pas d'habitants. Hein. Ah non. De toute façon, la population en Islande est sur le pourtour. Hein.
Ouais.
Et puis, comme je disais tout à l'heure, Reykjavik, 2/3 de la population. Après, la deuxième ville au nord, c'est Akureyri, 14 000 habitants. On voit tout de suite la chute. Et moi, j'avais été stupéfait lors de notre premier voyage. Par exemple, il y a une ville au nord aussi qui s'appelle Húsavík, 800 habitants. Mais cette ville-là a toutes les communautés d'une ville de chez nous de 15 000.
C'est
extraordinaire.
Oui, donc les villages là-bas, ça doit être qu'une dizaine ou une vingtaine d'habitants.
Les villages, c'est petit, hein, c'est petit. Et puis bon, et c'est comme partout ailleurs, les villages de la côte se vident. Et Reykjavik attire les gens, hein, c'est évident.
Et est-ce que les jeunes partent?
Il arrive qu'ils partent. D'ailleurs, la fille en question avec qui on était en rapport, comment on l'a connue? C'était en 1978, on préparait notre voyage. On savait qu'il y avait une Islandaise qui était venue en stage à Salbris chez un apiculteur. Et donc, on a pris contact avec elle. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvée en Islande. Mais cette fille-là, elle a voyagé aux États-Unis, elle a voyagé en Italie. Et c'est des gens qui se déplacent beaucoup. Ils vont à l'étranger, mais aussi ils reviennent. Ils restent pas forcément à l'étranger, ils reviennent chez eux.
Ouais. Oui, ils vont voir ailleurs parce que, entre guillemets, on a vite fait le tour. Mais finalement, ça reste quand même leur terre.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu as des choses à ajouter ?
Oui, il peut y en avoir beaucoup.
Oui, c'est sûr.
Déjà, il faut dire aux gens qui nous écoutent qu'il faut vraiment qu'ils viennent voir, s'ils ont envie, hein, ils viennent voir ce film, parce que c'est 2 fois 1 heure, mais ce n'est pas parce que c'est long que c'est bon. Mais c'est quand même un panorama très complet de l'Islande. On a dit les volcans, les glaciers, mais il y a aussi les sources chaudes. Il y a aussi...
les aurores boréales.
Et alors, les aurores boréales, malheureusement, j'en ai pas vu.
Oui, mais ça existe là-bas.
Parce que c'est comme les volcans, on n'appuie pas sur le bouton, puis ça démarre. Mm. Bon, non, j'en ai pas vu. Il aurait fallu que je reste plus longtemps. Mm. Et effectivement, je serais bien resté plus longtemps, mais bon, il faut se faire une raison. Non, il y a plein de choses hyper intéressantes. Par exemple, je vais mettre mes lunettes. Je vais lire le petit résumé du tract parce que je trouve que c'est Geneviève qui l'a fait d'ailleurs. Je trouve qu'il résume très bien ce que les gens vont voir. C'est enserré par 2 puissants océans. L'Islande est une véritable débauche de couleurs que Dame Nature lui a prodiguée sans parcimonie. Le vert tend des prairies herbeuses et des maisons de tourbe. Le gris des marmites de boue et des eaux tumultueuses des fjords du nord. L'or des évents et des champs de soufre. Le bleu opalin des glaciers et des icebergs. Le cristal des cascades et des geysers, le noir des volcans et des déserts de lave, le rouge des fontaines de lave en ébullition, le blanc des fumerolles et des jets de vapeur, l'émeraude des lacs de cratères, un pays de contraste où le feu et la glace sont étroitement liés, un peuple tourné vers l'avenir, mais respectueux des traditions, un dépaysement assuré. Donc je pense qu'en disant ça, tout est dit, quoi.
Ça donne envie, en tout cas.
Voilà, c'est le but.
et donc, l'exposition, ce sont surtout des photos ou
Alors, l'exposition, c'est des photos. Il y en a... c'est une grosse exposition. Il y en a 60. Des photos qui font 70 cm par 50. C'est pas des petites photos. Et puis, ça retrace les volcans, ça retrace les glaciers, puis toute l'agriculture, la pêche, surtout. Là, dans mon voyage, c'était pas la période de la pêche. J'étais quelquefois un petit peu déçu. Je n'ai pas vu trop de pêche parce que ce n'était pas la période. Mais quand même, où j'ai photographié presque tous les ports parce que c'est vraiment beau. Quoi. Mmh. Et puis dans cette exposition, il y a aussi des photos de Katia Maurice-Kraft qui étaient des volcanologues qui sont morts au Japon. À Luzerne. Et il y a aussi, il faut que j'en parle, ça y a une île au sud qui s'appelle Emae. Et en 1973, il y a eu une forte éruption sur Emae. Et les Islandais, qui sont très opérationnels, ont évacué les gens par bateau et par avion. Et avec cette éruption, ils ont eu la chance qu'il y avait eu une tempête. Les bateaux étaient bloqués au port, ce qui leur a permis d'utiliser les bateaux pour évacuer les gens. Ce qui fait que je crois qu'il y a eu une personne qui est morte d'une crise cardiaque, mais il n'y a pas eu de victime. Par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts, donc c'était très spectaculaire. Moi, je n'y suis pas allé à ce moment-là, mais Katia Maurice-Kraft y sont allés, puisque c'était leur métier, ils allaient sur tous les volcans du monde. Et moi, j'avais fait venir à Blois, quand je travaillais à l'époque, c'était la maison de Bégon. Et je l'avais fait venir à Blois pour faire une conférence, et donc on était resté en rapport. Et pour cette éruption, il m'avait fourni des diapositives que j'avais insérées dans mon précédent montage et qu'on verra dans l'exposition. Mmh. Donc si les gens veulent venir voir des photos des Kraft sur l'Islande, il y en a quelques-unes. Voilà.
Donc l'exposition, elle a lieu tout le mois de novembre jusqu'au 1er décembre.
Ouais.
Super. Et donc, toi qui as beaucoup voyagé, est-ce que l'Islande, est-ce qu'on fait un classement des pays qu'on préfère ou est-ce qu'on le fait pas?
On pourrait, mais c'est très... D'abord, je suis loin d'avoir voyagé dans tous les pays du monde. C'est pas possible, il faudrait une autre vie, j'espère, pour faire ça. Mais j'ai quand même une classification arbitraire. Pour l'Europe, je dirais c'est la Norvège.
Okay.
C'est mon avis.
Ouais.
Après, je mettrai l'Islande. Mais après, quand je vais en Italie, quand je vais en Espagne ou ailleurs, je trouve que c'est des pays partout, il y a des choses intéressantes à faire. Après, on a beaucoup voyagé en Amérique du Sud, puisqu'on connaît tous les pays de la cordillère des Andes. Et en fait, quand je regarde, j'ai voyagé de la Terre de Feu. Moi, je voyage par la route. Hein. Mmh. Voyager de la Terre de Feu jusqu'en Alaska. Puisque quand j'avais 50 ans, j'ai fait des infidélités à la LEP. J'ai pris un congé de 6 mois et je suis parti faire du Costa Rica à l'Alaska pour faire les volcans d'Amérique du Nord. Donc, je connais bien cette partie-là. Mais bon, moi, je dis tous les pays du monde sont intéressants. Mmh. Mais voilà un peu le classement que je fais, mais on peut en trouver d'autres.
Donc, et si l'Islande m'était comptée, c'est le 28 novembre. Donc, il y a deux créneaux.
Oui, il y a deux séances. Il y a 14h30 et puis il y a 18h30.
Voilà.
Ouais.
Et l'exposition tout le mois de novembre. Mmh. Merci, Gérard.
Mais merci de rien. Merci beaucoup.
On va terminer sur une musique de ce même album qui s'appelle... Boudard Vissure, est-ce qu'on dit comme ça?
Oui, je ne sais pas, peut-être, mais là, je ne saurais pas commenter.
Bon, ben voilà. Donc, on écoute et on se retrouve le mois prochain. Síriður niður